C'était Northern Kings avec le morceau We Don't Need Another Hero, cover de Tina Turner bien évidemment. Et ça va être le thème de ce soir, non pas simplement les covers, mais comme vous avez pu le remarquer au titre, Metal et Top 50, on va s'intéresser aux morceaux repris par des groupes de metal, entre autres, metal, hard rock comme d'habitude, et dont la particularité de ces titres était d'avoir été bien positionné dans les charts à l'époque. Ce sera des charts à la fois français, mais aussi anglais, US, etc. On va voir un petit peu tout ça. Première émission d'une petite série, puisque c'est énormément de titres qui... il a fallu que je fasse une très très grosse sélection, en fait, pour éviter d'avoir une émission qui fasse... 8h30, donc j'ai déjà du matos pour au moins 3 autres émissions sans forcer. Je parlais un petit peu de Northern Kings que l'on vient d'entendre. Northern Kings, eh bien, c'est un collectif finlandais composé de quatre chanteurs principalement, venant tous d'autres groupes, hein, c'est ce qu'on appelle un super groupe, et on va retrouver à l'intérieur, alors excusez-moi pour les prononciations finlandaises que je vais sûrement écorcher, Jarkko Ahola, qui vient de Terrasbetoni, mais également ancien membre du groupe Dreamtail. On a Marco Hietala, un des plus connus du groupe, puisque c'est à la fois le bassiste, et chanteur de Nightwish, mais aussi de son autre groupe Tarot. Tony Kako, autre membre très connu de ce groupe, qui est le chanteur de Sonata Arctica. Et enfin, Juha-Pekka Lepäyluoto, j'espère que je l'ai bien prononcé, du groupe Caron et Armaya. Ça, c'était ce que vous venez d'entendre, donc We Don't Need Another Hero. C'est le premier single de leur tout premier album, sorti en 2007. Ils n'ont malheureusement fait que deux albums jusqu'à présent, un en 2007, un en 2008. Ils ont sorti un single en 2010, mais depuis plus rien. On est en 2019, on peut plus ou moins considérer que le groupe est en hiatus prolongé mort. Le morceau original, je vous présente rapidement, puisque vous le connaissez tous sans doute, cette fameuse chanson de Tina Turner, extrêmement emblématique, qui était justement sur la bande originale du film Mad Max, Au-delà du Dôme du Tonnerre, qui est sorti en 1985. Le titre se classa relativement bien quand il est sorti, puisqu'il fut numéro 1 en Suisse, en Espagne, en Allemagne, au Canada et en Australie, et il fut 3e en France. Donc jolie performance pour ce gros titre de Tina Turner. Donc toute la soirée va être consacrée à ça, au morceau emblématique du métal, de la pop plutôt, en tout cas de la pop généraliste, repris par des groupes de métal avec des versions très proches de l'original pour certains et d'autres très très modifiées. Justement, c'était ça l'intérêt, de trouver des choses qui étaient assez modifiées de manière à ce que ce soit la surprise de ces covers. On va envoyer le petit générique et puis on va continuer après avec toute cette liste de musique pour ce soir. Nous sommes déjà au 12e numéro de Rock City, alors déjà et en même temps que 12e, vu que c'est une émission qui est totalement irrégulière, la parution est quand j'ai le temps. Mais je me dis que ça en fait déjà 12, et que j'ai encore le potentiel de faire 50 émissions faciles, sans trop forcer. Faut juste que je trouve le temps de le faire. Pour ce deuxième morceau de cette soirée, on va partir directement du côté de la France. Metal, France, mon dieu, que se passe-t-il? Et oui, on va parler du groupe Etz. Alors si vous ne connaissez pas le groupe Etz, c'est un groupe de metalcore originaire de Marseille qui s'était formé en 99. Et le morceau dont on va parler ce soir, et je garde encore le titre un tout petit peu secret, figure sur leur album appelé sobrement 3, qui est leur troisième album justement, sorti en 2012. Savoir que c'était le dernier album avec la chanteuse Candice Clos, avant qu'elle décide de quitter le groupe, non pas pour divergence créative, parce qu'elle s'était engueulée avec les membres du groupe, mais surtout parce qu'en fait elle ne supportait plus, et elle n'était plus dedans en fait. Tout simplement, elle pendant 15 ans, elle a fait partie du groupe et... elle pouvait pousser avec la violence, parce que on est sur du metalcore, on est quand même sur un style assez rentre-dedans, mais elle est arrivée à un point dans sa vie où elle avait un couple heureux, elle avait un petit garçon, et en fait elle était tellement heureuse qu'elle n'arrivait plus à être en accord avec ce que représentait le groupe, à savoir quelque chose d'assez noir et d'assez sombre. Et du coup, alors qu'ils étaient au sommet de leur gloire, elle a décidé de se retirer, ce qui est une décision extrêmement courageuse. Le groupe s'est jamais vraiment remis du départ de cette chanteuse. Ils ont continué l'aventure avec deux chanteuses remplaçantes pour assurer les tournées. Et puis, pour l'album suivant, ils ont engagé une nouvelle chanteuse qui s'appelle Rachel Asp. Et malheureusement, ils ont sorti un album et ça n'a pas vraiment fonctionné. Et en 2017, ils ont décidé d'arrêter le groupe. Ils ont décidé de splitter. Mais avant cela, ils ont quand même offert aux fans un joli cadeau, puisqu'ils ont fait deux représentations avec le line-up original du groupe et donc le retour de Candice au chant avant de définitivement terminer leur carrière sous forme de Etz. Ce qui est un joli cadeau, et depuis ils ne se sont pas reformés. Bon, en même temps, c'était il y a que 2 ans. Hein, on verra dans 10 ans. Le morceau qu'ils ont cover, cette fois-ci, hein, la reprise qu'ils ont faite, eh bien, c'est un morceau de Madonna. C'est tiré du 8e album de Madonna, et le nom de l'album, c'est le même que le nom du morceau, on va parler de Music. Music qui est sorti en 2000, et c'était le premier single de l'album. Numéro 1 aux USA, évidemment, au Canada, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande, en Suisse, en Norvège, au Japon, en Israël, au Brésil, en Argentine, en Australie. Voilà, hein, quand même, numéro 1 partout, hein, c'est Madonna, c'est normal, nouvel album, ça cartonne. Les singles suivants n'auront pas forcément la même réception, en revanche. En France, le morceau, c'est seulement classé 8e. Oh, déception, la France n'aime pas Madonna. Oh, c'est dommage. Mais non, tout simplement, c'est parce que en France, au moment où il est sorti, on avait deux plus grosses stars dans notre top. Et oui, qui était premier à cette époque-là? C'était les rois du monde. Et oui, les rois du monde. Et puis, on avait Maria Maria de Santana en deuxième. Et en troisième, on avait Moi Lolita d'Alizé. Pauvre Madonna, elle pouvait pas rivaliser. Donc, on va écouter cette petite reprise de Etz sur le morceau, du morceau, pardon, de Music de Madonna. Et on revient juste après, parce que la France, on va en parler pas mal ce soir. Une version un poil plus agressive que la version originale de Madonna, bien évidemment. On va continuer avec les titres top, en tout cas dans les charts à l'époque, et repris par des groupes de métal. On va parler cette fois-ci d'Avenged Sevenfold avec la cover du morceau Runaway. Avenged Sevenfold qui en fait n'a pas sorti ce morceau directement sur l'album, mais notamment via un espèce de petit clip où il montrait l'enregistrement directement sur YouTube, mais toujours consacré avec l'album The Stage, puisqu'il s'agit de cet album-là, album qui était sorti en 2016, mais qu'il continue de faire évoluer. Ce morceau, Runaway, est une cover du groupe, en tout cas de l'artiste Del Shannon. Et on a justement, pour la reprise, Zachy Vengeance, hein, qui est un des guitaristes du groupe Avenged Sevenfold, qui est passé au chant, à la place de M. Shadows habituellement, d'où la voix assez différente. Hein. Pour ceux qui connaissent le groupe Avenged Sevenfold, là vous verrez que la voix est assez différente de d'habitude. C'est normal, c'est pas le même chanteur, tout simplement. Ils sont accompagnés à la guitare pour cette reprise de Warren Fitzgerald qui joue dans le groupe The Vandals, qui est un groupe de punk anglais, un groupe de punk américain, pardon. Et justement, on va sentir son apport et son côté très punk, hein, notamment dans la façon de jouer le morceau et l'espèce de petit solo qu'il y a, assez distordu, très très punk, hein, justement dans l'approche. Au niveau du morceau original, eh bien, comme je le disais, c'est l'artiste qui s'appelait Del Shannon, qui s'appelait, en tout cas son nom de naissance, c'était Charles Westover, qui était un chanteur et auteur, compositeur, interprète, hein, tout simplement, dont Runaway est son plus grand tube. Clairement, il a fait d'autres tubes ensuite, mais c'est son plus grand tube. Quand il a enregistré Runaway, il avait déjà plus ou moins tenté de percer dans la musique sans forcément y arriver au préalable. Et c'est ce qu'il disait, hein, dans les interviews qu'il racontait, que ce morceau, c'était sa dernière chance avant de d'arrêter complètement. Le mec avait toujours son boulot à côté, il était vendeur de tapis. Et bah en fait, il disait, soit je perds dans la musique et j'arrête le tapis, soit j'arrête la musique et je continue dans ce boulot que je n'aime pas, mais en tout cas je continue. C'était vraiment sa dernière chance. Et justement, par chance pour lui, ce morceau a extrêmement bien marché, puisque dès avril 61, dès la sortie du titre, eh bien, il rentrera directement dans les charts. Il a eu une carrière avec d'autres titres à son actif, mais rien n'a dépassé Runaway. Malheureusement, eh bien, Del Shannon est décédé en 1990, le 3 février 90. Il s'est suicidé, tout simplement. Il était devenu dépressif, hein, avec peut-être le succès qui s'amoindrissait, le fait qu'il n'a pas réussi forcément à faire beaucoup de succès, l'âge avançant, le fait de savoir que bah, sa carrière était plus proche de la fin que du début, bien évidemment. Et bah, il a commencé, après avoir été chez son docteur, à un traitement au Prozac, et peu de temps après avoir utilisé du Prozac, eh bien, il a décidé de se tirer une balle dans la tête alors qu'il avait une tournée qui s'apprêtait à démarrer pour lui, puisqu'il devait remplacer Roy Orbison qui venait de décéder dans un espèce de groupe où il devait faire une tournée. Mais malheureusement, bon voilà, il s'est tiré une balle dans la tête. Sa femme Shannon a essayé de poursuivre la compagnie qui faisait le Prozac, insistant sur le fait que c'était à cause du Prozac, hein, qu'il avait pris cette décision. Procès n'ira pas jusqu'au bout, mais en revanche attirera quand même l'attention des autorités fédérales sur ce problème de suicide suite à une dépression et suite à un traitement médicamenteux. Donc une fin malheureusement assez triste pour ce monsieur. Et je parlais de la France, hein, puisque vous allez connaître ce morceau. Si le titre Runaway ne vous parle pas, en tout cas le morceau en lui-même, l'air, la ritournelle, ce qu'on appelle la ritournelle, la mélodie, va vous parler, puisque bien sûr, c'est un morceau qui a été repris en France, hein, c'était pas mal la mode dans les années 50, 60 et 70, d'acheter les droits musicaux et de changer les paroles et de le faire chanter à un autre public avec une version traduite. Eh bien, pour ce morceau Runaway, il s'agit du morceau Vanina de Dave. Et oui, qui lui aussi a extrêmement bien marché, énorme succès. On écoute donc la version Avenged Sevenfold de Runaway, cover de Del Shannon. J'avais prévenu que c'était une version punk. Comme vous avez pu l'entendre, hein, le son distordu, ce son un peu faux, à la limite du faux, très très habituel dans la mode du punk. Et on va continuer sur des titres qui ont été aussi des succès commerciaux en France, puisque on va encore parler d'un autre titre emblématique que tout le monde connaît, peut-être moins la version originale, mais en tout cas la version française, tout le monde la connaît, en tout cas en France bien évidemment. On va parler du groupe Five Finger Death Punch, qui a sorti cette reprise sur leur album The Wrong Side of Heaven, The Right Side of Hell. Deuxième partie, c'est un album en deux parties sorti en 2013, et c'est une reprise du morceau emblématique le plus connu du groupe The Animals, sorti en 64. C'est le morceau, ça s'appelle The House of the Rising Sun, morceau extrêmement connu. Je vous garde encore, si vous ne savez pas de quel morceau il s'agit, je vous garde encore la petite surprise pour la fin. En tout cas, le morceau, quand il est sorti à l'époque, hein, la version de The Animals, s'était classé directement en première place du top des charts anglais, puisque c'est un groupe anglais à la base, hein, The Animals. Et le temps qu'il traverse l'Atlantique, eh bien, dès sa sortie, il sortira en septembre, et il restera premier du top US, donc le Billboard 100, pendant 3 semaines, ce qui était un exploit. C'est le premier titre anglais de ce qu'on appelle la British Invasion, qui n'est pas joué par les Beatles, à atteindre cette place. Hein, tous les titres des Beatles finissaient en haut des charts, mais ce n'était pas le cas des autres groupes. Et donc, eh bien, ce House of the Rising Sun est resté premier pendant 3 semaines. C'est un morceau qui a une histoire extrêmement complexe. C'est très difficile d'arriver à débrouiller le vrai du faux, d'où ça vient. C'est un morceau qui, en fait, est à la base déjà une reprise. Et oui, The Animals n'étaient pas les premiers à jouer ce morceau. D'après les historiens, c'est un morceau qui pourrait remonter jusqu'au XVIe siècle, puisque l'approche musicale et le thème est très proche d'une ballade à l'époque qui s'appelait The Unfortunate Rake. Le premier enregistrement de House of the Rising Sun, qui s'appelait à l'époque Rising Sun Blues, est sorti en 1928. Premier enregistrement date de 1928 pour ce morceau. Il avait été capté et interprété à l'époque par Clarence Tom Ashley et Gwen Foster. Clarence Ashley, donc appelé, surnommé Tom, jouera énormément ce morceau, l'apprendra à beaucoup de musiciens, et d'autres musiciens par la suite réenregistreront le titre. Il y a énormément de versions enregistrées à partir de 1928, à partir du premier enregistrement. Une des versions les plus célèbres du morceau est la version de Josh White, de 1942, qui était un bluesman, un acteur et surtout un défenseur des droits civiques pour les minorités aux USA. Et ce Josh White influencera énormément de monde dans sa vie. Hein. Il est cité comme mentor pour beaucoup d'artistes très connus encore aujourd'hui, comme Harry Belafonte ou encore Bob Dylan. Bob Dylan qui a lui-même fait une cover de House of the Rising Sun en 1961. Et pour la petite histoire, Bob Dylan a complètement piqué le morceau à quelqu'un d'autre, à son très grand ami Dave Van Ronk. C'est une histoire très très connue, mais je vais vous la raconter hein, pour ceux qui la connaîtraient pas. Dave Van Ronk et Bob Dylan étaient très amis, et Dave Van Ronk venait d'enregistrer un album. Il avait prévu d'enregistrer un deuxième album, et sur ce deuxième album, de mettre sa version de House of the Rising Sun, qu'il avait complètement réarrangé. Bob Dylan passe le voir et lui demande, bah écoute, ça te dérangerait que moi aussi je l'enregistre, parce que je suis en train d'enregistrer mon premier album, est-ce que ça te dérangerait que moi aussi je fasse ce morceau avec tes arrangements? Et Dave Van Ronk lui a répondu, bah écoute, j'ai prévu de l'enregistrer, laisse-moi l'enregistrer, puis toi tu l'enregistres après, il n'y a pas de problème. Il dit, ah, c'est dommage, parce qu'en fait je l'ai déjà enregistré. Et donc en fait il lui a complètement piqué le morceau, et du coup, The Animals se sont inspirés de cette version de Bob Dylan pour leur version de House of the Rising Sun. Donc le morceau sorti en 64, et Bob Dylan, quand il a entendu cette version sur son autoradio, eh bien, ça l'a incité à passer à la guitare électrique et ne pas rester que sur la guitare acoustique. Pour les habitués du site hein, qui écoutent les Comics Weekly habituellement, actuellement aux USA sort une mini-série chez Archie Comics qui s'appelle Archie 1955, où les personnages d'Archie Comics sont réinventés à la sauce 1955 et on fait d'Archie un espèce d'Elvis Presley. Et le thème principal, c'est les morceaux qui sont plus ou moins volés à d'autres compositeurs qui n'avaient pas forcément loisir de pouvoir les enregistrer et qui jouaient dans des petites salles. On est vraiment dans ce thème-là. Et j'ai trouvé que c'était assez assez marquant par rapport à l'actualité comics actuellement. Donc le fait de piquer un morceau et de bâtir sa carrière dessus. Pour ce qui est de la France, puisque j'y viens quand même, je vous l'annonçais tout à l'heure, pour ce qui est de la France, eh bien Marie Laforêt, qui malheureusement est décédée en début de ce mois-ci, le 2 novembre, avait chanté également House of the Rising Sun en 1963 sur ses tout premiers enregistrements en anglais. Et puis on a surtout la version la plus connue, la version française la plus connue. C'est une version qui a été... on a pris la musique, on a changé les paroles. Les paroles ont été écrites par Hugo Frey et Vlyn Bugge, qui est un pseudonyme pour une autrice qui est maintenant très très connue. Elle a signé énormément de paroles à succès. Et je vous donne le titre enfin. Il s'agit de la version de Johnny, Le Pénitencier. Vous avez bien sûr reconnaître la musique. Le pénitencier donc, et surtout ce morceau The House of the Rising Sun, la cover par Five Finger Death Punch.
It's been the ruin of many a poor boy, and God knows that I'm one.
La version de House of the Rising Sun par Five Finger Death Punch, version de 2013, version bien plus musclée bien évidemment que la version originale de The Animals, qui datait, rappelons-le, de 64 quand même. On va continuer, je vous parlais juste avant de Archie Comics, de Archie 1955, eh bien le lien va se faire tout seul avec un autre groupe qui a fait une sacrée reprise d'envergure, c'est le groupe Jughead's Revenge. Et oui, j'ai fait des liens dans l'émission, on va croire que cette émission est préparée, que j'ai passé 15 heures dessus. Oh, ce serait dommage. Alors, le Jughead's Revenge, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un groupe de punk américain. Et pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'univers d'Archie Comics, Jughead, c'est l'un des plus grands amis de Archie, hein, le personnage principal de cette ligne de comics. Jughead Jones, hein, son nom. Traduit en français par, j'ai trouvé ce nom-là, Doudingue Jones. Putain, quel nom de merde. La particularité de Jughead, c'est qu'il adore manger, il adore dormir, il déteste travailler, et il a toujours une couronne sur la tête. Bon, voilà, assez pour ce qui est d'Archie Comics et pour vous placer le personnage. Jughead's Revenge, donc, c'est un groupe américain formé à Los Angeles en 1989, hein, pas tout jeune. Ils ont jusqu'à présent sorti 6 albums, et le dernier date de 1999. Vous allez me dire, mais le groupe n'existe plus. Alors en fait, si, mais c'est surtout qu'ils ont une histoire particulière, c'est qu'en 2001, Archie Comics leur a fait un procès pour qu'ils abandonnent le nom Jughead's Revenge, étant donné que c'était eux qui étaient les seuls détenteurs du trademark, du copyright, du nom Jughead. Donc ils ont dû splitter, mais en 2018, à partir de 2010, ils ont commencé à refaire des shows, comme ça, par-ci par-là, sans sortir de nouveaux albums, et puis en fin 2018, ils ont annoncé sur Twitter, c'était courant même 2018, ils ont annoncé sur Twitter qu'ils commençaient à travailler sur un nouvel album, qu'un nouvel album arriverait, ils savaient pas encore quand, mais qu'il arriverait. Je passais voir leur Twitter tout à l'heure, il y a eu 2 tweets depuis cette annonce en mai 2018. Donc bon, est-ce qu'ils travaillent encore dessus? Je ne sais pas. Le morceau qu'ils ont repris cette fois-ci, alors là les mecs sont allés taper dans le haut du panier, enfin en tout cas en termes de popularité, puisqu'ils ont repris un morceau d'Elvis, donc ça rigole plus, Love Me Tender, pareil, un morceau ultra ultra emblématique de Elvis Presley bien évidemment. Cette cover de Love Me Tender est sur le deuxième album de Jughead's Revenge, elle était sortie en 92, l'album s'appelle It's Lonely at the Bottom, si jamais vous voulez réécouter le morceau que je vais vous diffuser et que vous voulez en entendre plus sur le groupe Jughead's Revenge. Concernant le morceau d'Elvis, est-ce qu'on a vraiment vraiment besoin de le présenter ? Sorti en 1956, tiré du film du même nom, bien évidemment, hein, Love Me Tender, dont Elvis était acteur. La semaine de la sortie, le single a atteint directement la deuxième place du classement des ventes, directement le jour de la sortie. On parle bien du classement des ventes, hein, pas seulement le classement de popularité, puisque le Billboard aux USA, c'est assez compliqué. C'est à la fois un mélange de popularité, de vente, de ce qui est diffusé à la radio, c'est assez bordélique. Là, au niveau du classement des ventes, directement deuxième, et c'est le premier single à avoir réalisé cet exploit aux USA. La semaine de la sortie, en tout cas. Il atteindra ensuite la première position du Billboard 100, hein, donc ce fameux top de popularité, de diffusion à la radio, de vente, un peu tout mélangé, et il restera premier pendant 5 semaines, qui est assez long pour l'époque. Ce que vous saviez peut-être pas, en revanche, concernant Love Me Tender, c'est que ça aussi, c'est une putain de reprise. Parce qu'il y a rien de neuf. Et oui, c'est une reprise d'un morceau qui date de 1861, qui s'appelait O'Reilly, et qui était un morceau de l'époque de la guerre civile, et qui parlait de la guerre civile. Donc, comme le disait Lavoisier, hein, le père de la chimie moderne, bien évidemment, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. On écoute donc Jughead's Revenge avec Love Me Tender, une version... plus punk, évidemment.
Joey, go get Dr. Nick.
Okay, Slayer.
Thank you. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life a wreck.
I Love Me Tender sous crack, hein, clairement. La balade mièvre et casse-couille, j'ai jamais pu blairer ce morceau. Et là, un petit peu remis en speed, ça me va beaucoup plus. Parlons d'autres... De toute façon, Elvis, en général, j'aime pas. Et je vais parler d'un autre groupe que je n'aime pas au départ. On va parler d'ABBA. Alors, je me suis cantonné dans cette émission à ne mettre qu'un seul titre repris d'ABBA. Parce que je crois que je pourrais faire deux émissions complètes juste avec les reprises métal d'ABBA. Je ne sais pas pourquoi ce groupe attire autant les métalleux, c'est incroyable. Il y a des chier plus 12 de reprises d'ABBA. Et là, on va écouter la version de Thérapie du morceau Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight. Thérapie, c'est un groupe de métal alternatif d'Irlande du Nord, hein, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le groupe, fondé en 89, donc pareil, encore une fois, c'est pas tout jeune. Et cette reprise n'est jamais sortie sur un véritable album, en réalité. C'était la face B du single de l'album de l'époque, hein, sorti en 2001. Il est contenu sur une version un petit peu spéciale on avait un single simple et puis on avait une version un peu plus musclée du single qui était en fait un petit EP avec 7 morceaux. Le titre de cet EP, c'est Gimme Back My Brain, excusez-moi. Gimme Back My Brain, et leur gimmick, sans mauvais jeu de mots, hein, je suis désolé, le gimmick de l'EP, c'est d'avoir que des morceaux qui commencent par Gimme. On avait justement Gimme Back My Brain, ce morceau-là. On avait Gimme Danger des Stooges. On avait Gimme Nickel All Night Long de EC8OR. Je ne connaissais absolument pas ce groupe. On a Gimme 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 de d'ABBA, bien sûr. Gimme Gimme Chart Treatment des Ramones. Et Gimme 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 de Black Flag. Le single, enfin en tout cas l'EP, c'était assez bien vendu puisqu'il avait atteint la 6e place des albums dits budget en Angleterre. Les albums budget, donc c'est des albums qui ne sont pas au prix fort, hein, tout simplement des albums à prix un peu moins cher parce que justement souvent des EP. Donc c'est considéré comme un mini-album. Concernant le morceau original d'ABBA, morceau de 79, qui lui aussi est présent sur aucun album studio. Étrangement, ce morceau, Gimme Gimme Gimme, qui est un des titres phares d'ABBA, évidemment, a été enregistré en 79 et en fait est seulement contenu sur un best-of qui s'appelait Greatest Hits Volume 2 et qui servait surtout à promouvoir la tournée nord-américaine et européenne qui allait s'annoncer. Alors bien sûr, c'est du ABBA, on était en 79, on était en pleine époque d'ABBA, on était un peu sur la fin, mais ça marchait encore très très bien ABBA. La chanson fut numéro 1 en Suisse, en Irlande, en Finlande, en France et en Belgique, évidemment. On écoute donc la version un petit peu plus, pareil, un petit peu plus musclée, un peu plus dark de Thérapie de Gimme Gimme Gimme. We'll be right back. De la ceinture, ce morceau est toujours dégueulasse. Je sais pas, je n'y arrive pas. Ah bah, j'ai jamais compris. Je dois être né trop tard, je pense, pour apprécier la période disco. On va rester sur des chanteuses, hein, puisque ah bah, c'était des chanteuses, principalement. On va rester sur des chanteuses et on va parler d'un autre groupe avec des chanteuses emblématiques. On va parler de Blondie. Alors non, ce n'est pas Blondie qui a fait une reprise. On va parler d'une reprise de Blondie. La reprise du pareil, un titre emblématique de Blondie, Call Me. Et cette reprise est faite par In This Moment, le groupe de Maria Brink, groupe de metalcore et alternative metal, formé en 2005. Et cette reprise figure sur leur deuxième album qui s'appelle The Dream, sorti en 2008. Alors, le morceau n'est disponible, était disponible au départ, en tout cas, que sur l'édition anglaise de l'album, et puis par la suite le morceau gagnera en popularité et en exposition puisque le groupe In This Moment tournera un clip pour ce morceau, forcément donnant de l'exposition et de la visibilité à cette reprise qui n'était disponible que dans une certaine partie du monde. Le morceau original, Call Me, eh bien vient du film American Gigolo, qui est sorti en 1980. Il restera 6 semaines numéro 1 aux USA. 6 semaines. Et il sera détrôné par, et alors là, gros monstre, hein, pour arriver à détrôner ça. Donc, si le morceau que je vais vous annoncer n'était pas sorti à ce moment-là, peut-être que Call Me aurait eu encore plus d'exposition en tant que numéro 1. Il a été détrôné par Funky Town de Leap CNC. Funky Town, vous connaissez tous le morceau, ça a même été utilisé, et non. Dans une pub pour, je crois que c'est pour Areva à la télé, moi qui regarde tellement la télé. Le morceau, quand il est sorti, fut aussi premier en Angleterre. Il a été quand même quatrième en France pour un morceau américain, c'est pas toujours évident. À la base, le morceau a été composé non pas par Blondie, mais par le producteur ultra célèbre, ultra fameux, ultra connu à l'époque du disco, Giorgio Moroder. Et il l'avait d'abord proposé, puisqu'il devait en faire la bande originale du film, hein, on l'avait recruté pour faire la bande originale du film, et il l'avait proposé au tout départ à Stevie Nicks de Fleetwood Mac. Cependant, Stevie Nicks ne pouvait pas enregistrer avec Giorgio Moroder. Pourquoi ? Parce que c'était dans son contrat. Elle venait de signer un contrat avec la maison de disques qui s'appelle Modern Records, et qui l'empêchait de travailler avec Moroder. C'était précisé dans son contrat, elle n'avait pas le droit de travailler avec lui. Donc, ne pouvant pas être avec Stevie Nicks de Fleetwood Mac, eh bien, il s'est tourné vers d'autres personnes, et notamment Debbie Harry et le groupe Blondie. Je sais pas si une version dans un monde alternatif où Stevie Nicks aurait pu enregistrer le titre, je suis pas certain que ce morceau aurait eu le même succès. À mon avis, ça n'aurait pas eu du tout la même approche. Donc, quand il a proposé la chanson à Blondie et donc à Debbie Harry, il avait juste une piste de démo instrumentale. Et bien, c'est Debbie Harry qui dû composer la musique et écrire les paroles, le reste des arrangements musicaux et des paroles. Ça a été fait en quelques heures. Elle a été ultra inspirée par le morceau et dans les quelques jours qui ont suivi, ils ont enregistré ce morceau. Énorme succès que ce Call Me qui finalement est qu'un concours de circonstances, la personne originale ne pouvait pas l'enregistrer, on leur a donné, ça les a inspirés, et boum, gros carton, et le film American Gigolo était pareil, un film qui a plutôt bien cartonné. Donc là, on va écouter la reprise de In This Moment, mais sachez que c'est un morceau qui a été cover, mais par un nombre de groupes incalculable, dans les versions un peu bizarres que j'ai pu dégoter sur le net. Une version du groupe heavy trash australien Dungeon, en 96, sur leur premier album qui s'appelait Demolition, qui est une version bien énergique, bien musclée. Je vous en diffuserai peut-être un tout petit extrait juste après. Et si vous voulez une version un peu plus glauque, un peu plus... pas doom, mais on va dire emo, emo gothique. Je vous conseille également la version de 69 Eyes, qui est un groupe finlandais. C'est dispo sur leur troisième album qui s'appelle Wrap Your Troubles in Dreams, excusez-moi. Là, c'est une version un peu plus destroy, un peu plus glaucasse. Pour l'heure, on va écouter la version de In This Moment, version assez proche de l'original, beaucoup plus musclée au niveau des guitares, mais surtout avec la très belle voix et la voix très puissante de Maria Brink au chant qui pousse bien la voix comme il le faut. Et ça nous donne une cover, certes proche de l'original, mais bien plus énergique, bien plus musclée, et très très bonne version de la part de In This Moment. La version de In This Moment du standard Call Me, un standard de Blondie évidemment. Je vous l'avais promis, je ne résiste pas à vous diffuser un petit extrait de la version de Dungeon, donc ce groupe de heavy trash australien. Vous allez voir que niveau patate, on est autant la version de In This Moment était très proche de l'original, avec des guitares un petit peu plus saturées, un petit peu plus lourdes. Là, on est quand même dans une version un peu plus trash dans l'esprit, trash heavy metal. Ouais, comme je le disais, une version un petit peu plus musclée, je ne vous arrête là, je vous encourage à aller écouter, c'est disponible sur YouTube, hein. Vous pouvez aller écouter ce morceau de Dungeon, qui s'appelle donc Call Me, hein, bien sûr, comme le titre original. On va passer à la suite et on va parler d'un autre groupe ultra connu. On a parlé de Blondie, on a parlé de ABBA, et bien on va parler d'un autre groupe qui était très populaire à l'époque, hein, fin des années 70, début des années 80. On va être en 79, hein, pour ce morceau original en tout cas. Et on va parler d'un groupe beaucoup plus récent, en tout cas pour la cover. On va parler de Machine Head. Machine Head, sur leur troisième album en 1999, qui s'appelait The Burning Red, et bien faisait cette reprise. Et cette reprise est sortie vraiment par hasard. Le producteur du groupe avait entendu Rob Flynn, hein, le frontman et chanteur du groupe, jouer ce morceau en répète et le travailler, voilà, pour se chauffer un peu les doigts, et avait envie de s'amuser avec la reprise de ce morceau et avait demandé au groupe d'enregistrer cette version puisque il fallait avoir des face B pour les singles. Et du coup, ils ont enregistré une version un peu plus douce et un peu plus glauque que ce qui était prévu originalement, et finalement le morceau leur a tellement plu qu'ils ont décidé de l'inclure sur l'album. De quel groupe je parle, de quel morceau je parle? Eh bien je parle de The Police avec le morceau Message in a Bottle, qui était le premier single du deuxième album de Police. Ce deuxième album sorti en 79 qui s'appelait Reggaeta de Blanc. C'est le premier titre de Police à atteindre la première place du classement des ventes en Angleterre. Il fut aussi numéro 1 en Irlande et en Espagne. En France, il arrivera troisième du top à l'époque. Et par contre, aux États-Unis, Police n'avait pas encore atteint le succès puisque Message in a Bottle se classera que 74e aux USA. Ce qui est assez étonnant. On a l'impression que Police, qui a cartonné partout, a cartonné pareil aux États-Unis assez rapidement, et pas du tout. On était encore sur cette espèce de frilosité qu'ont les Américains vis-à-vis des produits qui viennent d'Angleterre. En Europe, ça nous arrive très vite, notamment c'est pour ça qu'il était très vite classé en France, en Espagne, en Irlande, etc. Mais aux États-Unis, ça n'a pas marché. Alors qu'au Canada, en revanche, et pourtant souvent le Canada et les États-Unis ont un peu les mêmes tops, les mêmes choses marchent, et bien au Canada, ce titre fut classé numéro 2. Ça a extrêmement bien marché au Canada et pas du tout en Angleterre. C'est toujours cette frilosité vis-à-vis de cette espèce d'invasion britannique qu'il redoute tant dans la musique. Donc Message in a Bottle, version Machine Head. Si vous aimez le morceau d'origine, vous allez peut-être tiquer un peu parce que là la version est quand même un peu plus glauque et un peu plus sale. Just a cast away. An island lost at sea, another lonely day. There's no one here but me. More loneliness than any man could bear. Rescue me before I fall to despair. I've sinned in SOS to the world. I've sinned in SOS to the world. Love can mend your life, but love can break Ah, j'avais prévenu que la version était plus sale, hein, quand même. Donc c'était Machine Head, la cover de Message in a Bottle de The Police. Et on parle de top, mais il y a des titres qui sont internationaux et il y a des titres qui sont des succès qu'à échelle locale. Ça va être le cas pour cette prochaine chanson. On va parler d'Evergrey. Le morceau c'est I'm Sorry. Peut-être que vous connaissez Evergrey, hein, si vous aimez un petit peu le métal. Evergrey qui est un groupe suédois et qui a repris une chanson du pays. Le titre original, c'est Dilba. Dilba, elle est pas connue. En tout cas, pas vraiment hors de son pays. Mais ça a été un relatif succès là-bas. Et chose assez étonnante, eh bien, c'est la reprise d'Evergrey qui a plus fait connaître le morceau que l'artiste original. Dilba a sorti ce morceau en 96. C'est le premier single de son premier album. Le morceau donc s'appelle I'm Sorry. C'était une ballade. Evergrey l'a musclé un petit peu, mais l'a gardé sous forme de power ballad. Vous verrez, c'est un morceau assez calme, assez doux. Après ce message in a bottle, on a besoin de se détendre et de souffler un petit peu. Et donc, ce morceau sorti en 96, classé pendant 4 semaines, 3e du top en Suède, pour un artiste inconnu, c'est quand même relativement pas mal. Elle gagnera d'ailleurs, la même année, en Suède, le Grammy de la meilleure artiste féminine. Donc, début de carrière relativement tonitruant pour Dilba. Malheureusement, le reste de sa carrière ne sera pas aussi bon. Elle est toujours en activité, hein, bien sûr, mais elle peine à classer ses titres en haut des charts. C'est le meilleur titre qu'elle ait pu classer. Son autre fait d'arme est d'avoir participé et représenté la Suède à l'Eurovision en 2011. Et malheureusement, elle ne passera pas les demi-finales. Étonnant. Hein, pour un artiste qui est quand même confirmé, qui avait déjà 3 ou 4 albums au compteur. Néanmoins, son morceau qu'elle chantait à l'époque, qui s'appelait Try Again, eh bien, rencontrera un succès commercial assez fort dans le pays, puisqu'il sera respectivement premier sur iTunes et deuxième sur Digilistan, qui est en fait leur service de streaming et de vente de musique locale. Premier et deuxième, dès la sortie du morceau, dès qu'il a été passé dans l'Eurovision, les gens ont accroché et ont acheté en masse le titre sur les plateformes digitales. En revanche, dans les charts et les ventes physiques, ce sera beaucoup moins fort puisqu'il n'atteindra que la 20e place. Ce qui est plutôt pas mal, mais c'est que la 20e. Donc Evergrey a repris ce morceau en 2003 sur leur 4e album à l'époque, qui s'appelait Recreation Day. On écoute donc la version de I'm Sorry de Dilba par Evergrey et qui a popularisé finalement ce morceau original.
Creation. The street. dream I had made a slave of my passion. Reality was always too far away. And we were happy until it came too close one day. Sudden I faced the truth of my dream. My love had only been a picture of sea. I suppose I needed to believe, didn't want to see. You had never been close to me. And I'm sorry.
Version d'Evergrey du titre I'm Sorry de Dilba. Et après cette petite pause musicale, mélodique, belle et gentille, eh bien on va passer à quelque chose de beaucoup plus crade d'un seul coup, puisqu'on va parler d'un groupe de death metal mélodique. Et oui, le death metal mélodique, eh bien ils font des reprises aussi, surtout quand il s'agit de Children of Bodom. Ce morceau est disponible sur leur album uniquement composé de reprises. 2009, Skeleton is the Closet. 18 pistes, uniquement faites de reprises, et on va trouver un petit peu de tout sur cet album. Autant la star pop dont on va parler, qui est Britney Spears, et oui, ils ont repris du Britney Spears, mais on va aussi trouver des choses un peu plus rock qui les ont inspirées, du type Ramones, du type Slayer, du type Alice Cooper, Iron Maiden, ce genre de choses-là. On va trouver des choses un petit peu plus new wave, comme du Billy Idol, on aura également du Johnny Cash, on aura du Creedence Clearwater Revival, et oui, pas mal d'influence, pas mal de délire pour eux, et ils ont décidé de reprendre ce morceau de Britney Spears, Oops, I Did It Again. Est-ce qu'il faudrait vraiment que je vous présente à la fois Children of Bodom, qui est un groupe ultra connu, même si aujourd'hui leur carrière est un petit peu en péril quand même, puisque la majorité du groupe s'est barrée, en fait il ne reste plus que le guitariste soliste chanteur, Alexis Lalo. Et puis, bien sûr, le nouveau guitariste qu'ils avaient recruté juste avant le dernier album. Les autres membres sont partis. En même temps, ça faisait tellement d'années qu'ils étaient ensemble. Ils ont peut-être envie de faire autre chose. On verra ce que va donner l'avenir du groupe. Concernant le morceau original, donc Britney Spears, Oops, I Did It Again. Premier single de son deuxième album, sorti en 2000. Alors, ça a été premier. Attention, la liste est longue. En Australie, au Canada, en Italie, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, en Norvège, en Pologne, en Roumanie, en Espagne, en Suède, en Suisse, mais aussi dans le Royaume-Uni. Et fut rentré, le single n'a pas été premier, mais est entré dans le top 5 en Autriche, en Belgique, en Finlande, en France, en Allemagne, en Irlande, et s'est classé 9e au US Billboard 100. Le Hot 100, puisqu'il y a plusieurs classifications hein, pour le Billboard en fonction des genres. Il s'est classé dans le Hot, qui est le classement le plus prestigieux, les titres, bah, comme son nom l'indique, Hot, hein, les titres les plus en vue, 9e du classement US. Donc énorme carton hein, pour ce titre de Britney Spears, qui a été joliment sali, dégueulassé, massacré, et en même temps rendu beaucoup plus technique par Children of Bodom. Je vous laisse écouter cette version. Si vous êtes fan de Britney Spears, vous allez pleurer. Hein. Vous allez pleurer comme le petit gars qui voulait Leave Britney Alone, vous allez pleurer pareil.
Cause you lose all, perché va? Yeah. Oh yeah, 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 yeah. I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. Got to lose all my senses. That is just so typical of me. Oh baby, baby.
Version saccagée et massacrée de Oops I Did It Again de Britney Spears, mais version beaucoup plus écoutable selon moi. Ils ont réussi quand même à mettre des solos dessus et à rendre tout musical. Et à, ils arrivent à me faire être bangé avec du Britney Spears. Les mecs sont forts quand même. Je vais vous parler maintenant d'un petit groupe que je ne connaissais pas, qui s'appelle Silverstein, un groupe de punk canadien formé en 2000. Je suis tombé dessus en faisant mes recherches pour cette émission. Et le morceau que je vais vous diffuser n'était pas celui que j'avais prévu au départ du même groupe. Hein. Ils avaient fait une autre reprise que je vais garder pour une prochaine émission. Mais j'ai tellement préféré cette version-là. C'est le morceau qui s'est ajouté vraiment à la dernière minute sur le conducteur et une heure avant le début de cette émission. On va parler d'une cover d'un très grand groupe, un groupe ultra connu, un groupe de folk que vous connaissez tous au moins de nom. Vous pouvez pas ne pas en avoir entendu parler. On va parler de Fleetwood Mac et le morceau ultra connu également de leur carrière, Go Your Own Way. Silverstein, donc ce groupe a décidé de reprendre ce morceau sur le même album, hein, sur leur quatrième album, pardon. qui s'appelait A Shipwreck in the Sand, et c'était sorti sur la version Deluxe. Sur la version Deluxe, on avait plusieurs covers en bonus track, on en avait quatre, dont cette version de Fleetwood Mac. L'autre, je vous la garde pour une prochaine émission, évidemment. D'un autre groupe, hein, d'ailleurs. Leur nom à Silverstein, en fait, vient de l'auteur pour enfants, qui fait des livres et des romans pour la jeunesse, qui s'appelle Shel Silverstein. Tous les membres du groupe étaient en fait fans de cet auteur quand ils étaient jeunes, ça leur a rappelé énormément de souvenirs. Du coup, en hommage à cet auteur, ils ont décidé d'appeler leur groupe Silverstein, ce qui est plutôt original en fait de s'appeler en hommage à un auteur favori quand on était jeune. Pour ce qui est du morceau original, et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de vous en parler, c'est qu'en faisant quelques recherches, j'ai trouvé quelques petites anecdotes sur le morceau que j'ai trouvé bien plus croustillantes, et puis j'adore le morceau original de toute façon, bien plus que l'autre, qui est un groupe que je déteste, voilà, les Beatles, pour ne pas les nommer, hein. Donc je préfère parler de Fleetwood Mac. Le morceau original date de 1977, et c'est le premier single, du 11e album de Fleetwood Mac qui s'appelait Rumours. Et c'est d'ailleurs le premier titre du Mac, hein, le petit surnom de Fleetwood Mac, à atteindre le top 10 dans les charts US pop. Parce qu'à l'époque, ils étaient classés en folk. Et là, c'était la première fois qu'ils atteignaient le top 10 des charts pop. Ce qui était une grosse révélation pour eux. Le morceau fut écrit dans des circonstances un petit peu particulières et reflète bien l'état d'esprit du groupe de l'époque, avec notamment le fait que dans le groupe, hein, ils étaient tous plus ou moins ensemble, plus ou moins mariés, il y avait des hommes, des femmes, et c'était un petit peu, voilà, ils étaient en couple. Et à cette époque-là, eh bien, ils revenaient de tournée, ils avaient fait une énorme tournée aux États-Unis en 1976, et ont pris quelques jours de vacances après cette tournée, en louant une maison en Floride. Les couples allaient mal, hein, la majorité des couples étaient en train d'exploser, on avait notamment Christine McVie et John McVie qui divorcé. On avait Mick Fleetwood, le leader du groupe, qui venait de se séparer de sa femme pour la deuxième fois, et d'autres membres emblématiques du groupe, Steve Nicks, dont je parlais tout à l'heure quand je parlais de Blondie, et Lindsey Buckingham, qui étaient ensemble et qui avaient complètement coupé les liens. Hein, les mecs ne se parlaient quasiment plus. Lindsey Buckingham, qui a donc écrit ce morceau, a dit s'être inspiré, notamment pour le rythme de batterie, du morceau des Rolling Stones, Street Fighting Man, en faisant un rythme assez similaire, qui était quelque chose d'assez peu courant à l'époque, en tout cas. Et la petite anecdote que j'ai trouvée absolument surprenante, que vous pourrez vérifier en écoutant le morceau original, puisque là, vous n'aurez pas cette version-là, vous aurez la version cover de Silverstein. Eh bien, les guitaristes n'arrivaient pas à enregistrer un solo qui leur plaisait. Le solo ne tombait pas bien, ça ne sonnait pas, c'était pas agréable à l'oreille, et ils n'étaient pas satisfaits de ce qu'ils avaient produit. Du coup, leur producteur de l'époque, Ken Kayat, décida de prendre en fait les 6 pistes d'enregistrement, les six prises qu'ils avaient, et d'en faire un montage à sa sauce en isolant certaines parties de guitare, en jouant avec les fade in, les fade out, on n'entend rien, et en fait le solo que vous entendez sur le morceau Go Your Own Way est un mélange de 6 prises différentes. Et à part un, où on entend clairement qu'il y a une montée, c'est fait comme si c'était une deuxième guitare, mais on entend clairement qu'il y a une petite montée du son, donc on sent que c'est pas la même prise, clairement. À part ce moment-là, impossible de savoir que c'était 6 prises originalement. Très très bon morceau et très très bonne cover de Silverstein qui ont vraiment remixé le morceau à leur sauce, sauce un peu plus punk, et une très très bonne version de ce classique de Fleetwood Mac qui est Go Your Own Way. Loving you isn't the right thing to do.
You can call it a night.
Version de Go Your Own Way des Fleetwood Mac par Silverstein, version musclée, version avec une petite voix grôlée, et je trouve que le morceau rend super bien comme ça, même si j'adore l'original, vraiment, de Fleetwood Mac, c'est un morceau que j'écoute toujours avec plaisir, mais cette version m'a bluffé, je l'ai trouvé vraiment bien foutu, et pour ça j'avais envie de vous la faire découvrir. Excellentissime petite version, et les mecs sont pas dégueux en cover dans la prochaine émission que je ferai sur ce thème là, parce que oui, il y en aura d'autres avec tout le matos que j'ai accumulé toutes les infos que j'ai accumulées. Je vous promets que j'ai de quoi faire au moins deux voire trois émissions sans forcer, et en cherchant un peu je peux en faire encore plein d'autres. Les mecs se démerdent bien pour ce qui est des reprises, en gardant l'esprit original tout en le modifiant et en rendant ça un peu plus métal, un peu plus moderne, et c'est vraiment pas mal. J'avoue ne pas avoir été écouter ce qu'ils produisaient d'autres en matos original, mais en tout cas ce que j'ai entendu là me plaisait bien. Continuons avec un morceau. Alors on parlait de folk un petit peu avec Fleetwood Mac, hein, qui était classé dans le folk. Eh bien, on va rester alors là dans le folk, mais le plus traditionnel, le folklorique au sens littéral du terme. On va parler de Helvetia. Helvetia qui a sorti sur leur second album Slania le morceau Inis Mona. Alors, si vous ne connaissez pas ce morceau, ça ne vous dit rien. Le nom n'est pas le même que le morceau original, en plus. Mais il s'agit de une chanson traditionnelle bretonne, au départ, qui a été surtout popularisée par Alan Sivel depuis 1972. Hein, le mec joue cette chanson qui s'appelait, au départ, Tri Martelod, qui veut dire apparemment 60 marins en breton, ou je ne sais pas comment s'appelle la langue, et je m'excuse à tous les bretons si je vous ai offensé. Je sais pas comment ça se parle. En tout cas, donc Inis Mona de Helvetia, c'est le premier single de leur second album. Ça a énormément aidé à populariser le groupe en plus, puisque morceau très connu. Et ce morceau d'ailleurs, hein, Tri Martelod, a été repris un nombre incalculable de fois sous différentes versions. Certes, les différentes versions d'Alan Stivell, parce que comme je le disais, il en a fait plusieurs versions, une version acoustique, une version folk, une version un peu plus électrique, un peu plus réarrangée, etc. Mais d'autres groupes s'en sont chargés. Et ça, même en France, puisqu'on a eu des versions très emblématiques de ce morceau. Et oui, hein, ça va rappeler des souvenirs à tout le monde. 1998, qu'est-ce que c'était 1998, la Coupe du Monde? Oui, mais c'était aussi Mano, la vallée de Dana. Et oui, ah, ce bon morceau, la vallée de Dana, qu'on a tous envie de s'enlever du crâne. Eh bien, c'est la même version que Tri Martelod et donc que Inis Mona des Helvetia. Et puis, plus récemment, en 2010, une chanteuse bretonne, hein, très connu, un autre Céline Dion française. J'ai mal quand je dis ça. Nolwenn Leroy, sur son album Bretonne, nous a repris Tri Martelod. Bon, là, on va écouter une version musclée. Les oreilles sensibles, écartez-vous, ça va piquer. On va parler donc d'Helvetia, du death metal mélodique folklorique. C'est parti pour Inis Mona.
Join the joy.
version définitivement très musclée de cette chanson traditionnelle bretonne. Donc Inis Mona, chantée par Élu Vétier, donc deuxième album sur Slania. Élu Vétier, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais qui est un groupe suisse. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, et c'est assez intéressant pour être annoncé. On est tout proche de la fin de cette émission, il ne me reste plus qu'un morceau pour ce soir, et pour une fois, je n'ai pas fait une émission de 2h20 sur un Rock City, j'ai limité les chansons à diffuser ce soir, car je prévois d'en refaire d'autres, surtout qu'en ce moment j'ai un petit peu plus de temps, je vais pouvoir en refaire plus facilement, je pense pouvoir en faire une, voire deux, d'ici la fin de l'année, et donc comme ça vous en aurez un petit peu plus, il y aura un deuxième volume hein, de ce Metal et Top 50. Parce que j'ai vraiment encore plein de cartouches. Hein. J'ai exactement mis de côté encore pour une prochaine émission. J'ai déjà 12 titres de côté pour une prochaine émission, sachant qu'il y en a d'autres que je n'ai pas encore, que je n'avais pas mis encore dans mon dossier de près. Donc il y a de quoi, il y a de quoi faire encore avec des choses diverses et variées. Pour ce dernier titre, alors on va taper dans le ultra culte que vous connaissez tous et vous connaissez tous l'original. Et vous avez tous entendu la reprise, obligatoirement. On va parler du King of Pop, clairement. On a parlé du King tout à l'heure avec Elvis, là on va parler du King of Pop avec Michael Jackson. Et surtout, cette fameuse reprise de Smooth Criminal par Alien on the Farm. Alien on the Farm qui était un groupe de punk, enfin qui est toujours un groupe d'ailleurs, puisque j'ai, en faisant des recherches, appris qu'ils ont sorti un album en 2015. Totalement passé sous le radar. En fait, je crois que ce groupe n'a jamais vraiment marché au-delà de leur reprise très bonne hein, de Smooth Criminal, mais ça fait partie de ces groupes qui font des reprises pour se lancer leur carrière et ça tape un grand coup. C'est un morceau connu, c'est ultra accrocheur pour les gens, mais derrière, ce qu'ils proposent ne séduit pas les gens. Je me rappelle avoir écouté l'album Anthology, hein, qui était leur deuxième album. Parce que les mecs avaient comme le melon sorti leur premier album qui s'appelle Greatest Hits. Alors ouais, c'est marrant pour la blague. Et deuxième album s'appelle Anthologie. Sauf que ce qu'ils proposaient derrière n'était pas vraiment à la hauteur de Smooth Criminal, malheureusement. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu non plus le succès commercial au-delà de ce premier titre. D'ailleurs, c'est une c'est assez assez important pour être noté. En tout cas pour l'émission de ce soir, c'est une reprise qui a atteint elle-même la première place du Billboard 100 rock. Incroyable, la reprise a marché au point d'être numéro 1 des classements aux États-Unis. Pour ce qui est du titre original, c'est Michael Jackson, évidemment. C'est tiré du 7e album de Michael Jackson qui s'appelait Bad, et c'est le 7e single de l'album. Bordel, 7 singles sur un album. À un moment, t'arrêtes de promouvoir ton album, t'en sors un autre, quoi. Je sais pas, enfin, tu fais quelque chose. 7e single de l'album, quand même. Et surtout, très connu morceau pour son clip. Son clip qui a été repris par la suite dans le film Moonwalker, qui était un enchaînement de plusieurs segments, une espèce de plus ou moins film à sketch, si on peut dire. Et le très connu mouvement dans Smooth Criminal, qui est... ce déhanché, enfin le fait qu'il se penche à un angle de 45 degrés, un angle totalement inhumain. À savoir qu'au départ, le morceau devait être, selon Michael Jackson, s'il avait pu avoir ce qu'il voulait, il voulait faire un enregistrement et un clip plutôt western. Et finalement, il a regardé, je sais plus quel film, je crois que c'est les Affranchis qu'il a regardé. Et ça lui a donné l'idée de gangster plutôt. Il a changé son idée de western et plutôt parti sur le côté gangster et mafia, et d'où le chapeau et le style années 30. Et ça fonctionne à merveille. Pour la petite anecdote, dans le clip, il était tenu par un harnais qui était très très fin, qui ne se voyait pas des fils, etc. D'où le fait qu'il puisse atteindre cet angle de 45 degrés. Cependant, sur scène, il le refaisait. Comment faisait-il? Il n'y avait pas de harnais, et là ça serait vu. En fait, il y avait tout un petit système où ils mettaient leurs chaussures dans des espèces de petits, je sais pas comment appeler ça, des espèces de petites sangles en fait, qui leur permettaient de maintenir les pieds, et ça leur permettait de pouvoir se pencher comme ça sans se casser la gueule, parce que de toute façon c'est un angle où on se casse la gueule. Hein. Essayez, vous allez tomber, vous allez vous faire mal. Donc avec ces petites sangles, ça leur permettait d'atteindre cet angle de 45 degrés, mais imaginez la force qu'il faut dans les jambes et la coordination qu'il faut pour arriver à remonter le corps de cet angle de 45 degrés. Très facile de tomber, beaucoup plus difficile de se remonter. Voilà, ça montre à quel point le mec était quand même une putain de bête de scène. Pour ce qui est du top et ce qui nous intéresse pour ce soir, évidemment, numéro 1 dans plein de pays, Belgique, Pays-Bas, Islande, Espagne. Malgré tout, ça commençait à perdre un petit peu son attrait puisque Bad était sorti, tout le monde l'avait acheté et forcément, les gens ayant l'album n'ont pas forcément envie de racheter un single et ça se comprend. Surtout quand c'est le 7e single de l'album, parce que t'en achètes 2, t'en achètes 3, tu te dis bon avec le prix que j'ai dépensé, j'aurais peut-être mieux fait d'acheter l'album où il y aura de meilleurs titres, quoi. Enfin, il y en aura plus surtout. Donc Belgique, Pays-Bas, Islande et Espagne, numéro 1, il était 4e en France, il n'est arrivé que 7e aux USA. Hein, l'effet je sors trop de singles, mais le morceau gagnera énormément en popularité avec les années, bien évidemment. En tout cas, voilà pour cette 12e émission de Rock City. La 13e se fera très prochainement. Je ne sais pas encore si ce sera la seconde partie sur la suite mythologique ou la deuxième partie concernant le top 50. Ce sera un de ces deux thèmes-là de toute façon et ça devrait se faire dans les semaines qui viennent, peut-être d'ici 2 semaines, 3 semaines, le temps que je finisse d'écrire l'émission. On va se quitter donc avec Alien on Farm, Smooth Criminal, la version cover donc du titre de Michael Jackson. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, je vous dis à très bientôt pour de prochaines émissions, comme d'habitude tous les jeudis pour le Comics Weekly, et puis pour les autres émissions, le Comic City une fois par mois sur les sorties VF, et le podcatch. Le prochain podcatch sera le 1er décembre, hein, puisque l'actualité catch fait qu'en ce moment on fait des émissions toutes les 2 semaines. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très vite. Smooth criminal.